automobile. Chronique automobile. Radiophonie.
J'ai entendu. Ping. Ah ben voilà.
Ah, okay, so.
Et un mal. Ça m'a pas entendu.
Voilà, chaque tour de
commissaire. Très bien, madame. Comment voulez-vous?
Chronique automobile et radiophonique de l'info kiosque. Rendez-vous hebdomadaire avec l'info kiosque dans De bruit et de fureur sur Radio Usine.
Il y a des offensives face auxquelles on se heurte. Dans ce monde marchand qui trouve moyen de se réengendrer, catastrophe après catastrophe, crise après crise. Des offensives qui demandent de pouvoir en parler sans qu'on ait forcément les mots. À l'heure où Coca-Cola ou McDonald's utilisent comme vecteur publicitaire la production locale et écologique, à l'heure où le biogaz est prêt à être couronné comme politique alternative au pétrole, à l'heure où de nombreux écologistes ont fait preuve de pragmatisme en rejoignant les bancs des décideurs après avoir pris la carte d'un parti, il s'agit de pouvoir analyser les mécanismes qui permettent aux entreprises et aux politiques de verdir un territoire social et géographique dévasté par l'époque industrielle. Un territoire prêt à accueillir les nouvelles technologies qui matérialiseront la société d'écologie autoritaire voulue par les gestionnaires de ce monde. Le livre dont on parle dans cette chronique s'appelle « L'enfer vert » et est sous-titré « Un projet pavé de bonnes intentions ». C'est édité cette année chez L'Échappée et c'est en fait une réédition augmentée de l'ouvrage éponyme paru aux éditions Badaboum en 2012 et visible en ligne sur le site pièces-et-main-d'œuvre.com. Extrait. On vous parle donc de partout du technomonde unifié par l'économie. Il s'agit d'une dictature technique au nom de l'urgence écologique, laquelle s'appuie sur l'effondrement de la société, du lien social jusqu'à la biodiversité, pour justifier son emprise totale. Son acceptation par les masses joue sur les mêmes registres que la lutte contre la crise financière, la dette souveraine, les ennemis intérieurs ou extérieurs. Elle nous enferme tous à égalité dans le même bateau, ressoudant ainsi la communauté économique pour dissimuler responsabilité des industriels, de l'État et des collectivités locales. Cette dictature n'est pas le fait d'une droite dure, néolibérale. Non, les Verts sont du beau côté du manche. Ils ont leur conscience pour eux. Ils œuvrent pour sauver la planète et en plus, ils ont tout bon. Ils écoutent de la musique de jeunes, ils ne sont pas contre un petit joint. Ils promeuvent le mariage pour tous et la reproduction artificielle, la parité et la diversité. Ils ont des vélos à 400 euros et ne mettent pas de cravate. Ce sont des ambitieux, taillés pour la gestion des affaires, qui n'ont quasiment jamais milité ailleurs que dans les bureaux de la technocratie. Ils sont les meilleurs gestionnaires dont le technocapitalisme a besoin pour survivre à ses propres méfaits, pour renouveler ses marchandises et son discours. Ils sont peut-être sa dernière chance. L'avant-garde du système qui commence d'ailleurs à le comprendre. Les écologistes sont les co-gestionnaires d'un désastre qu'ils souhaitent le plus durable possible. Mais nous ne parlons pas que du Parti Vert. Face aux dérèglements écologiques et sociaux, aux externalités négatives de la société industrielle, l'écologie est une nécessité économique. L'enfer vert n'est pas seulement du greenwashing, des effets de langue citoyens et durables, un enrobage rhétorique pour nous faire acheter de nouveaux gadgets. L'écologie porte en elle un projet de société totale qui nécessite de faire l'inventaire du monde pour le rationaliser. D'une part, l'enfer vert est la fuite en avant technocratique, plus rationnelle, plus efficiente, plus destructrice. D'autre part, l'enfer vert est l'intensification du contrôle imposé par la survie dans un environnement pathogène sans atteinte aux bases de la production industrielle. La force de cet ouvrage profondément négatif est de partir d'une situation particulière, celle de la construction de la Lille technologique et internationale d'aujourd'hui par les pouvoirs publics socialistes et leurs alliés, les écologistes. On a ainsi entre les mains une sorte de mini-encyclopédie des nuisances proposée puis imposée par la technologie galopante et subventionnée par les pouvoirs publics lillois. Ainsi, à l'échelle d'une ville, un exemple de ce qui est en marche dans la plupart des villes occidentales où s'est imposé comme totem le développement et la croissance par la technologie et l'économie verte. Deuxième extrait, lui aussi du chapitre conclusif, la direction de l'enfer vert. Ce néo-collectivisme a cela de dangereux qu'il intensifie cette sursocialisation propre aux états modernes. Il se veut le gouvernement total des humains, des non-humains et de leurs interactions. Les écologistes, pour être conséquents, doivent réifier le cosmos pour mieux le sauver. Leur seule ambition politique n'est que d'opposer une solution technicienne, par exemple la voiture, à une autre, par exemple le métro. Ils sont l'ennemi immédiat, nos meilleurs ennemis en ce qu'ils sont les pires ennemis de nos libertés, de notre autonomie et finalement de la nature. Dans la course de vitesse entre la catastrophe et la conscience de la catastrophe, les Verts freinent toujours la seconde avec leurs fausses solutions techniques et tactiques. Les causes des nuisances, le système de production de masse et d'aménagement industriel, si elles peuvent parfois être questionnées, ne servent qu'à cautionner leur technolâtrie. Les questions essentielles et politiques de nos besoins et de la vie que nous voulons ont disparu des discours écologistes, si elles y avaient jamais figuré. Le diktat de la mise en chiffres du monde appauvrit nos paysages naturels et imaginaires. C'est contre cette aliénation sensible, et non par une série de calculs coûts-bénéfices, que nous pourrions encore dégager un horizon. Dans ce passage conclusif sont résumées la plupart des enquêtes qui ont été menées par l'auteur lors des chapitres précédents. Ainsi, sur la réification de la nature et la fabrication d'un pôle biodiversité autour de l'île, on se référera au chapitre 4, où la critique va bon train sur l'utilisation par l'homme et pour l'homme de la nature diversifiée. On trouvera aussi dans ce chapitre une liste des alliés de l'enfer vert qui sont plus radicaux que Europe, Écologie Les Verts, notamment les porteurs du projet Ville en transition. Le chapitre 3 est quant à lui une critique de l'évolution à un niveau urbanistique et au niveau de la recherche et des entreprises présentes de l'île et de ses alentours, notamment des parcs Eurasanté et Euratechnologie dans le Grand Lille. Il dresse le portrait des entreprises présentes, notamment le géant Bayer. Il repose ensuite une critique classique du système technicien qui se suffit à lui-même en proposant des solutions aux problèmes qu'il a posés lui-même avant de s'intéresser à la question de l'urbanisme augmenté et ubiquitaire qui voit les humains être déplacés dans une métropole de la même manière que les marchandises. Un projet technofasciste dont il voit la réalisation éclairée dans le cas de Lille. Le chapitre 2 s'intéresse à la participation des Verts au projet du Grand Lille pour la mobilité, notamment le métro lillois et le canal Seine-Nord-Europe, canal de fret qui permettra une autre manière de transporter les marchandises dès 2015 vers le nord de l'Europe. Le métro lillois, on pourra le lire dans ce livre, s'inscrit de plein pied dans la politique sécuritaire de gestion des déplacements humains, notamment avec une carte individuelle à puce RFID pour gérer et surveiller les déplacements de ses utilisateurs. Le premier chapitre explicite qui sont ces Verts de Lille qui participent depuis quelques années à l'élaboration des projets technologiques de construction du Grand Lille. C'est une sorte de lettre ouverte à ceux qui sont passés du fromage de chèvre à la technocratie. Ils sont dépeints des fonctionnaires extrêmement ambitieux et zélés sur la construction d'une nouvelle dictature écologiste, non conviviale et non partagée. On finira cette chronique à rebours de ce livre « L'enfer vert » paru chez L'Échappée en donnant lecture de la citation qui se trouve au début de l'ouvrage et qui est issue de « Le feu vert » de Bernard Charbonneau, paru en 1980. « Rien n'ayant jamais été donné pour rien sur terre, si l'homme prétend s'émanciper totalement de la nature, il pourrait bien le payer d'un contrôle social total. C'est pourquoi, aux menaces de catastrophes entraînées par l'exploitation sans fin de la Terre s'en ajoutent d'autres, provoquées par les réactions de la matière humaine écrasée sous le poids croissant de la machine sociale, par le malaise physique et spirituel de l'homme qui ne peut tolérer de bonheur que le sien, et non celui qu'on lui fabrique dans les laboratoires et ministères. Ce paradis auquel ne manque que la part de la nature et de la liberté, du corps et de l'esprit, ne peut être qu'un enfer. Mais l'échec même, écologique et humain, de ce progrès, ne peut que le mener à se renforcer. Pour contrôler les dangers de moyens de plus en plus puissants et fragiles, parce que complexes, gérer un espace et des ressources qui s'épuisent, prévoir et maîtriser les réactions humaines qui empêcheraient de le faire, on est obligé de renforcer l'organisation. On est contraint de tout connaître, tout calculer, tout prévoir pour ce qui est de la nature et de l'homme. Et comme le phénomène dépasse les frontières, seule une organisation, un État, mondial, gérant l'ensemble planétaire par ordinateur, peut éviter le désastre. L'homme ne se serait dégagé d'une nature totale que pour se livrer à une autre, totalitaire.